Santé.
C'est bon pour la santé.
Santé. C'est bon pour la santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Santé. C'est bon pour la santé. Bonjour, Marianne Paquette, derrière le micro avec vous pour la prochaine heure. Bien heureuse de vous présenter cette édition de C'est bon pour la santé. Vous êtes sur Canal M. Aujourd'hui, on parle de bien choisir son milieu de vie lorsque vient le temps de choisir une résidence pour personnes aînées, que ce soit pour nous, que ce soit pour un proche parent. C'est une étape qui, je le devine, est importante, peut être sensible, gorgée d'émotions. Quels critères on observe pour orienter ses choix et aussi pour faire un choix éclairé qui nous convient? On en discute avec François Théoret. Il est vice-président en développement des affaires au groupe Projac, et ce, en deuxième partie d'émission. Aussi, quels sont les bienfaits du yoga adapté pour des personnes qui vivent en situation de handicap? Antonella Morun, professeure de yoga, co-directrice du comité yoga et handicapés, nous en dit plus sur le sujet tout à l'heure. Aussi, on parle de sexe. Et oui, évidemment, j'ai fait un petit peu exprès pour attirer votre attention ou vous réveiller si vous êtes encore endormi. Et ce, avec Sylvie Lavallée, sexologue clinicienne, psychothérapeute et auteure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlera de santé sexuelle à la sortie de son livre « Êtes-vous en santé sexuelle? ». Et on vous présente le programme éducatif « Jeunes caribous » qui vise à favoriser de saines habitudes de vie auprès des jeunes Inuits. On se rendra du côté de Koudjouak. Et oui, on voyage à travers les ondes de la radio aujourd'hui avec Valérie Raymond. Elle est cofondatrice de ce projet Jeunes Caribous, mais tout juste avant, la revue de presse de Martin Forgue. Sexe. Ça a attiré votre attention, hein, Martin Forgue, à vous?
Ça a attiré mon attention et du coup, j'ai l'impression que ma revue de presse est complètement caduque. Personne ne va m'écouter.
Mais en même temps, on a de la suite dans les idées encore cette semaine parce que c'est la saga qui se poursuit et vous nous parlez en première nouvelle, toujours des transferts fédéraux en santé.
Mais je pense que tant vous, Marianne, que plusieurs auditeurs diront « Mais il est fatigant avec ce sujet-là, les transferts en santé. » Mais pourtant, évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement important, donc on le suit de près. Et on le sait, le budget sera déposé sous peu au Québec par le ministre des Finances, Carlos Letao, et qui s'est résigné, lui, à préparer son budget sans le calcul de la bonification qu'aurait procuré les transferts fédéraux en santé. Donc, on anticipe du coup, évidemment, qu'on ne réglera pas la question d'ici au dépôt du budget, ni même dans la foulée proche. Et par le fait même, on souligne que l'Alberta risque fort de conclure une entente sous peu avec le fédéral. Donc, encore une fois, le front commun s'effrite. Il ne resterait à ce moment-là que le Manitoba, l'Ontario et le Québec. Oui. Donc, on y va vraiment à l'usure du côté fédéral. On parle d'une mesure réaliste du côté du gouvernement, puisqu'on ne veut pas s'aventurer et déposer un budget qui, s'il n'y a pas d'entente, bien évidemment, serait largement déficitaire en ce qui a trait aux dépenses en santé. Et du coup, le ministre assure que le Québec et l'Ontario font toujours équipe pour réclamer la hausse de 5,2% des transferts fédéraux, qu'on juge toujours insuffisante par rapport à ce qui est requis selon les autorités provinciales.
Et on continuera d'en parler au cours des prochaines semaines, d'après vous?
Je pense que oui. Je pense qu'à chaque fois qu'il y aura une entente, on viendra en parler.
Votre prochaine nouvelle, Martin Forgue, rendra fier, ou du moins rassurant, notre metteur en onde, Jean-Sébastien, la liberté d'être végétarien.
Ah oui? Il est végétarien.
Oui.
Eh bien, on en apprend tous les jours. Mais en fait, je vais le regarder. Je vais voir sa réaction. Il y a Santé Canada qui autorise désormais la vente de bœuf haché irradié. Donc, c'est une mesure toute neuve. On assimile la technique au recours à des rayons X. Donc, on donne une dose réduite, évidemment, de radiation à la viande pour, selon ce que dit l'article sur Radio-Canada, on cherche à prévenir l'infection à E. coli, à la salmonelle également. On veut aussi augmenter la durée de conservation en prévenant la dégradation prématurée. Par contre, très important, et ça rassurera peut-être aussi quelques personnes qui sont à l'écoute, le bœuf haché irradié devra être être étiqueté de façon à en informer le consommateur, contrairement à d'autres produits dont l'étiquetage n'est pas requis. Donc, on doit évidemment informer les gens qui vont consommer éventuellement cette viande-là. Et l'Organisation Santé Canada souligne aussi qu'il faudra un certain temps avant de retrouver ces produits sur les tablettes. Il y a encore plusieurs étapes à passer avant qu'on puisse le retrouver, justement, ce bœuf haché irradié.
C'était une demande des producteurs de bœuf.
C'était une demande de l'Association canadienne des éleveurs, oui.
Oui. Toujours du côté de Santé Canada qui poursuit sa lutte contre le tabagisme.
Oui, donc Santé Canada qui envisage de bannir la vente de cigarettes au moins de 21 ans. Une mesure qui a déjà été évoquée par le passé, qui existe un peu ailleurs, et on cherche aussi à mettre en place d'autres mesures, dont l'interdiction de la consommation dans les campus universitaires, les parcs et les immeubles à logement. Restera plus grand endroit pour en griller une éventuellement. Évidemment, on dit que c'est pour faire chuter la consommation de tabac. Oui. On rappelle que présentement, environ 15 % des Canadiens utilisent toujours des produits du tabac et la cible de Santé Canada est assez ambitieuse, selon ce que nous rapporte TVA. Donc, on veut réduire la proportion à 5 % d'ici 2035. C'est quand même effectivement assez ambitieux. C'est pas définitif tout ça. Le gouvernement a lancé cette semaine une consultation publique pour orienter sa réflexion avant d'émettre des recommandations et des mesures finales. Et on te rappelle aussi que le tabagisme coûte chaque année en soins de santé environ 17 milliards de dollars au pays.
Oui. Maintenant, le nouveau regroupement pour un Québec en santé rappelle que les Québécois veulent des investissements massifs en prévention de la santé.
Oui, donc le regroupement qui a commandé un sondage qui a été réalisé par Léger qui dit que 74 % des Québécois sont en accord avec la proposition du regroupement qui est d'investir massivement en prévention pour ce qui est de la santé par le biais d'une augmentation de la taxe sur le tabac et la création d'une taxe sur les boissons sucrées. On entend souvent ce type de proposition dans les médias. On estime du côté du RQS que ces mesures pourraient permettre d'investir 4,8 milliards de dollars sur 10 ans dans la création d'environnements favorables à la santé des citoyens. Quelques chiffres tirés de ce sondage. Donc, 67 % des Québécois se disent en accord avec l'instauration d'une taxe de 10 cents par litre sur les boissons sucrées. Le nombre monte à 77 % lorsqu'on précise que cette taxe excédentaire serait investi dans la prévention. Et on dit aussi, bon, que d'après le sondage, 9 Québécois sur 10 sont en accord avec une augmentation de la taxe sur le tabac également. Du côté des fumeurs, on dit que c'est 56 % qui sont d'accord et toujours rattachés avec la condition que tout ça soit réinvesti dans la prévention et non ailleurs.
Oui. Et en terminant, le temps pour une dernière nouvelle, Martin Forgue. Québec est critiqué, se priverait de millions de dollars dans l'industrie pharmaceutique.
Oui, c'est un pharmacien qui a requis l'anonymat, bon, qui est en entrevue avec le Journal de Québec, qui dit que le Québec se prive d'environ, se prive de plusieurs millions de dollars. En fait, on parle de 235 millions de dollars, voilà, en retardant l'approbation de médicaments qu'on appelle biosimilaires, c'est-à-dire produits à partir d'une molécule qui est différente de la molécule de référence. Ce pharmacien, je le rappelle, qui requiert l'anonymat, dit que le Québec accuse un retard important par rapport notamment à l'Ontario et la Saskatchewan qui, eux, remboursent et autorisent la mise en marché de ces médicaments qui n'ont pas la même marque aussi.
Oui. Pour en savoir davantage, cette nouvelle est tirée du Journal de Québec aujourd'hui, non, hier.
Hein,
paru hier. Martin Forgue, merci beaucoup.
Bonne semaine.
Valérie Raymond, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes cofondatrice du programme éducatif Jeune Caribou et on vous joint, si je ne me trompe pas, Valérie, du côté de Coudjouac.
Oui, tout à fait. Je suis à Coudjouac présentement.
Il pleut à Montréal. Quelle est la température chez vous, Valérie?
Chez nous, on a un beau soleil. Ce matin, quand j'ai regardé le thermomètre, on était à moins 28. Donc, ça s'est probablement adouci un petit peu maintenant. Là,
mais... À Montréal, il fait quoi? 5, Jean-Sébastien? À peu près. Donc, on voit quand même l'écart de température qui est assez flagrant. Valérie, on est là ensemble pour parler de ce programme éducatif Jeune Caribou. Quelle est sa petite histoire qui est assez neuve, je pense, du côté de Jeune Caribou?
Oui, tout à fait. En fait, Jeune Caribou, c'est un projet scolaire qui a été créé suite à l'expédition Projet Caribou, qui était une expédition où est-ce que quatre guides d'aventure ont décidé de relier Montréal à Coudjouac en ski de fond. Puis moi, à l'époque, c'était l'année scolaire 2013-2014, je suivais l'aventure avec mes élèves. Puis bon, mes élèves, à un moment donné, m'ont demandé, ah, est-ce que nous, on pourrait aller skier avec eux vers la fin, quand ils vont arriver à Coudjouac, pour les accompagner et tout. Donc, je trouvais l'idée bonne. Mm-hmm. Puis je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion de les initier au ski. Donc, on s'est lancé là-dedans. Puis après, une fois que le projet Caribou sont arrivés ici, les jeunes ont demandé, hey, Valérie, nous aussi, on aimerait ça vivre une expédition où est-ce que c'est nos propres moyens, notre énergie humaine qui nous amène à un autre endroit. Donc, l'année scolaire suivante, je me suis lancée dans cette aventure-là avec Maxime Saunier, qui était un collègue ici à l'école Yann-Maric à l'époque. Puis, on a commencé une première année avec un groupe de 7 élèves de l'école. Mm-hmm. Puis, on s'est rendu compte que, il y avait tout un potentiel. Puis, c'était bien plus qu'une expédition de ski de fond, en fait. Il y avait le potentiel de tout un programme scolaire qu'on pouvait faire sur l'année au complet. Donc, on a commencé à développer ça plus sérieusement. Puis, tout de suite, à la deuxième année, il y a 3 autres villages du Nunavik qui se sont joints à nous. Mm-hmm. Puis, on en est à la 3e édition. Puis, cette année, c'est 7 villages sur les 14, donc la moitié des écoles du Nunavik qui sont impliquées dans ce projet-là. Donc, c'est nouveau, mais ça l'implique déjà beaucoup de jeunes au Nunavik. Ouais.
Montréal-Coudjouac, c'est combien de kilomètres en ski de fond, Valérie Raymond?
On parle de 2200 kilomètres environ.
OK. Donc, ça amène le jeune à s'entraîner avant, à réviser peut-être ses habitudes alimentaires. Il y a toute une notion de persévérance, je dirais même, qui fait appel à l'endurance psychologique.
Oui, tout à fait. Je tiens juste à préciser, par contre, que le 2200 kilomètres, ça, c'est ce que le projet Caribou de base a fait. Nous, on fait des expéditions entre les villages, donc c'est plus autour d'une centaine de kilomètres. Mais tout de même, oui, il faut que le jeune, on fait des ateliers de nutrition sportive, effectivement, persévérance, travail d'équipe aussi, ouais. Parce que c'est quand même exigeant de vivre en équipe, en camping d'hiver tout au long de ça, tout ensemble. Donc, on essaie de développer tout ça avec les élèves, puis développer leur leadership aussi, c'est sûr. Puis c'est certain qu'on a un entraînement physique assez exigeant là, pour s'assurer qu'ils soient capables d'atteindre l'objectif de l'expédition.
Les jeunes doivent s'entraîner pendant la période estivale?
Oui, bien en fait, c'est tout au long de l'année scolaire. Donc, on débute en août. Les jeunes qui sont intéressés s'inscrivent au programme. Puis dès la mi-août, quand les classes reprennent, là, on se lance, on a des ateliers, on a des sessions d'entraînement 3 jours semaine. Donc, de août jusqu'à avril, là, c'est l'entraînement intensif pour l'expédition. Puis même après l'expédition, là, on continue à faire d'autres activités sportives. On va faire une petite sortie en camping, vélo-camping, par exemple, ou des choses comme ça. On change un peu de type d'activité, mais on continue quand même après l'expédition d'avril. Mmh.
Ce sont des jeunes, Valérie, qui ont entre 10 et 16 ans. Est-ce qu'ils ont des profils particuliers?
Oui, bien, en fait, c'est des jeunes qui veulent jouer dehors, donc ils n'ont pas peur d'être à l'extérieur, peu importe les conditions météo, qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve ou qu'il vente, on est à l'extérieur pour se préparer. C'est des jeunes qui aiment le dépassement de soi.
Mm-hmm.
Oui, effectivement. Puis ce qui est intéressant, c'est que on a des jeunes qui sont des sportifs à la base, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont commencé, disons, à être plus physiquement actifs grâce à ça. Donc, pour nous, ça, c'est une belle réussite. Il y a quelques jeunes, quand même, là, qui n'étaient pas nécessairement des grands sportifs avant de se lancer dans cette aventure-là.
Oui. Avez-vous l'impression que Jeune Caribou peut changer le parcours de ces adolescents-là d'une certaine façon?
Oui, tout à fait. En fait, c'est intéressant parce que, justement, hier, j'étais avec une de mes élèves qui gradue cette année en secondaire 5, puis elle, depuis qu'elle est partie à Jeune Caribou l'année dernière, elle a décidé qu'elle voulait être guide en tourisme d'aventure. Donc, hier, elle faisait ses tests physiques et tout pour l'inscription au cégep. Donc, je pense que ça, c'est un bel exemple de changement concret au niveau carrière, mais je pense aussi que ça influence très positivement les jeunes à plein d'autres niveaux personnels autant que professionnels.
Oui. Et ce lien que vous faites entre les villages, les 7 villages, amène un certain potentiel d'influence chez d'autres jeunes, de jeunes adultes aussi. Donc, il y a un rayonnement vers un changement d'habitude de vie, un mode de vie plus actif et plus sain, j'imagine.
Oui, oui, tout à fait. Puis c'est vraiment intéressant. Là, on voit ici à Koudjoua qu'il y a vraiment un engouement. Les jeunes du primaire, parce que nous, en fait, c'est les secondaires qui peuvent participer au projet. Donc, les jeunes du primaire, tous les soirs après l'école, viennent emprunter des skis de fond parce qu'ils veulent, veulent se pratiquer et tout. Et souvent, on entend les jeunes dire « Ah, quand moi, je vais être un adolescent, je vais être un jeune caribou. » Donc, c'est beau de voir ce rayonnement-là, justement.
Donc, que du positif, il y a probablement des embûches et des obstacles au cours des expéditions aussi, Valérie.
Oui, oui, tout à fait. C'est certain qu'on est dans la toundra, donc c'est pas toujours facile. La météo nous donne des beaux défis. Donc, des fois, on rencontre des vents très forts avec quand il n'y a pas de végétation pour bloquer, c'est encore plus difficile. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on est là-dedans, mais c'est sûr aussi qu'au niveau de la persévérance, après deux jours, même si un jeune dit « Ah, j'ai plus envie de le faire », ben
il n'y a pas d'hélicoptère pour venir le chercher, là, c'est ça.
C'est ça. Bon, il y en aurait si c'est vraiment une urgence.
Oui, bien
mais
sûr.
Là, dans ce cas-là, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment, c'est là que la persévérance est vraiment testée. Puis, c'est sûr aussi que, bon, skier pendant une semaine, ça amène des petites blessures mineures, comme des ampoules, des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que ça ajoute au défi pendant l'expédition.
Évidemment, lorsque l'on est passé à travers l'expédition, l'aventure Jeune Caribou, dans la tête, il y a certainement quelque chose qui se passe. On se dit, ben, on peut passer à travers plein d'autres choses, plein d'autres défis. À quand la prochaine expédition, Valérie?
La prochaine expédition va débuter le 21 avril du côté de la baie d'Ungava. Cette année, on en a deux, en fait, expéditions. Donc, il y en a une le 21 avril du côté de la baie d'Ungava et le 2 avril du côté de la baie du Tson.
Ça veut dire qu'il reste de la neige encore en avril chez vous.
Oui, oui. En tout cas, on va espérer, mais normalement, c'est pas un problème à cette période-là.
Parce qu'à Montréal, je vous le confirme, il y en a presque plus. Valérie Raymond, on invite les gens à aller visiter votre site web Jeune Caribou, et je l'appelle caribus.org. Je rappelle, vous êtes cofondatrice du programme éducatif Jeune Caribou. Merci beaucoup. Salutations à votre belle gang.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Au revoir. Cinquième livre, elle nous pose cette question. Êtes-vous en santé sexuelle? Le nouveau livre de la sexologue Sylvie Lavallée. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Nouveau livre publié chez Trécaré qui parle de plusieurs thèmes, infidélité, pornographie, engagement et j'en passe. Mais d'entrée de jeu, j'ai l'impression que ce que vous avez voulu pour vos auteurs, c'est de brasser un peu la cage parce que vous posez cette question. Êtes-vous heureux en couple? Êtes-vous à la bonne place dans la vie? Êtes-vous épanoui? Est-ce que vous faites les bons choix pour être en santé? Est-ce que je me trompe? C'est un peu ça que vous avez voulu faire, Sylvie Lavallée?
Je pense que vous avez bien saisi l'essence même du livre. Je me suis rendu compte que la plupart des gens qui me consultent, c'est sûr, comme thérapeute, on a tous notre niche puis nos intérêts cliniques en fonction des demandes qu'on reçoit.
Oui.
Moi, je reçois beaucoup des gens qui se questionnent sur leur base de désir, des discordances de désir. Un a le goût, pas l'autre. Un a plus le goût que l'autre. Un voudrait plus que l'autre. Un initie plus que l'autre. Et l'infidélité. Donc, c'est les deux grands thèmes. Et à force d'entendre des témoignages sur ces deux avenues-là, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de gens qui sont en couple avec des gens puis qui s'aiment plus.
Oui. Le plan B, vous en parlez.
Ah, mais j'ai vraiment... À chaque semaine, je trouve ça désolant. Pourquoi les gens tiennent bon? Pourquoi ils s'acharnent? Je le sais que c'est plus pratique élever des enfants à deux. C'est plus sain aussi. Ça coûte moins cher vivre à deux. Sauf que pour nos enfants, si on n'est pas un modèle d'amour, de complicité, de tendresse et d'humour, je suis pas certaine que c'est un beau cadeau à leur faire.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que je me suis dit, la santé sexuelle, habituellement, comment on l'entend, c'est au niveau médical ou gynécologique. Donc, des infections transmissibles sexuellement, se soucier de notre santé gynécologique, urologique, faire le pap test, notre cycle menstruel, c'est beaucoup cette avenue-là qu'on voit au niveau médical. Moi, j'ai voulu utiliser mon chapeau de psychothérapeute aussi parce que j'exerce en psychothérapie quasiment plus qu'en sexothérapie. Oui. Puis je me suis dit, les gens sont en déséquilibre. Ils sont dans du pharmaceutique tellement, il y a beaucoup de gens qui consomment des antidépresseurs et des anxiolytiques. Ça va pas bien.
Oui.
Ils sont essoufflés, submergés, à bout de souffle. Ils sont à bout de nerfs. Ça va pas bien. Ils se questionnent. C'est sûr qu'en ce temps-ci, c'est pas une super belle saison non plus. C'est gris, on sent qu'on n'a pas vraiment d'énergie, on est tanné, on manque de lumière, on dirait qu'on a hâte que la belle saison arrive, mais il y a des gens qui attendent que le bonheur leur arrive aussi.
Ouais.
Et ils viennent consulter puis ils me disent, ben je comprends pas Sylvie, comment ça se fait que j'ai plus de désir. Puis j'ai envie de leur dire, regarde ta vie, qu'est-ce que ça dit sur ta vie? Est-ce que j'ai justement toutes les questions? Est-ce que je suis en couple avec la bonne personne? Pas se connaître, est-ce qu'on choisit encore? Prendre un plan B, c'est un plan confortable. Je veux une bonne personne avec qui je vais pouvoir avoir des enfants, un homme digne de confiance qui peut s'engager, qui va être fidèle, mais après 10, 15, 20 ans, peut-être que la passion n'est pas plus là parce qu'elle n'était pas là au début. C'était la raison qui était là.
Mais vous parlez de ça, des trois éléments qui sont passion, engagement, intimité.
Oui.
Et souvent, il en manque un ou deux. C'est souvent la passion là, qui prend le bord.
De façon optimale, l'amour idéal, c'est quand on est à la fois bien engagé avec quelqu'un, puis c'est un choix libre de choix. Là. C'est-à-dire que je m'engage, j'ai envie qu'on rêve ensemble, j'ai envie qu'on fasse des choix de vie ensemble à court, moyen et long terme. Puis j'ai le désir et je suis motivée dans cet engagement-là. L'intimité, c'est comme l'amitié. Veiller au bien-être de l'autre, se dévoiler, avoir de l'humour, pouvoir échanger sur à peu près tout, sentir qu'on a beaucoup, beaucoup de valeurs et d'intérêts communs. Puis la passion, c'est désirer l'autre, érotiser l'autre, pouvoir fantasmer avec l'autre, puis avoir une sexualité en quantité et en qualité. Ça, c'est l'amour optimal quand on a les trois. C'est merveilleux, fabuleux et extraordinaire. Mais ça peut être un amour si on en a deux sur trois ou un sur trois. Moi, ceux que je vois dans mon bureau ont souvent que l'engagement.
Ouais.
Ça veut dire qu'on habite ensemble, on a des enfants ensemble. Des fois, on a une entreprise ensemble, mais on se dit plus rien. On n'a rien à se dire au restaurant. On n'écoute pas les mêmes émissions. On n'a plus les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes amis. Puis au lit, ben, on fait plus chambre à part parce qu'un des deux ronfle.
Oui, et ça, vous en parlez du sommeil.
Oui.
On peut pas ne pas l'aborder ensemble, mm-hmm. Sylvie. Ça fait partie d'un tout. En fait, c'est ce que vous dites dans ce livre-là. La santé fait partie d'une santé globale. C'est un tout. Et dans la santé globale, il y a le sommeil.
Bien dormir, ça aide beaucoup au niveau de notre humeur et notre concentration. Quand on dort pas bien, si vous avez besoin d'à peu près 7-8 heures de sommeil, puis que vous avez des semaines de 4-5 heures parce qu'il y a un enfant qui est malade, parce que vous avez un animal de compagnie qui grimpe sur votre lit, parce qu'un des deux a des troubles du sommeil, gringe des dents, fait de l'apnée du sommeil, ronfle, se réveille souvent, ou vous faites une insomnie passagère parce que vous êtes plus stressé ces temps-ci, puis que vous dormez 4-5 heures, je suis pas sûre que vous allez être au meilleur de votre forme le lendemain dans votre humeur.
Oui.
Ça se peut qu'on soit plus imbuvable. Et là, il ne faut pas s'étonner non plus que, comment ça fait que je n'ai pas de désir? C'est parce que tu ne laisses même pas à ton corps et à ton esprit le temps de se reposer et de se régénérer. Les gens ne pensent pas, ils voient tellement la sexualité à part du reste que je m'efforce à longueur de journée, de semaine dans mon bureau de leur dire c'est un tout. C'est pas le bagage à main dans l'avion, c'est pas le tiroir de la commode à côté de nous, c'est en nous. Je dors pas bien, je mange pas bien, j'aime plus l'autre, j'aime pas mon travail. J'ai envie de tromper, il faut pas se surprendre que tout est relié.
Et vous dites quelque chose qui a retenu mon attention dans ce livre, Sylvie Lavallée, c'est que quand un des deux chiale, c'est encore bon signe, vous osez dire les disputes, c'est bon.
Oui, ben c'est parce que je pense que dans la société, on associe chicaner à presque de la violence psychologique. On a un argument, on a un différent. Et tant que le canal de communication reste ouvert, tant qu'un des deux est vindicatif sur un point, essaie d'affirmer des besoins. Puis des besoins, c'est pas un caprice. Les besoins, c'est de l'eau dans le désert. Il faut que ce soit entendu, comblé et respecté. Ceux qui ont des enfants savent qu'ils ont beaucoup de caprices et pas beaucoup de réels besoins. Donc, il faut savoir discerner, mais il faut savoir l'exprimer aussi. Tant qu'on est capable de l'exprimer, qu'on en discute, qu'un des deux va s'excuser avec l'humilité d'avoir offensé l'autre, d'essayer de réparer quelque chose, c'est très, très vivant. C'est normal. Puis en passant, on ne s'obstine pas avec quelqu'un qu'on ne voit jamais. C'est normal quand on vit avec l'autre, qu'on fait des activités avec l'autre, qu'on s'obstine un peu plus parce qu'on voit plus.
Tout à fait. Vous parlez aussi, vous osez mettre un grand avertissement autour de la pornographie. Je l'ai rarement entendu d'une façon aussi claire. La pornographie peut être un obstacle au désir, peut être comme la roue qui ne tourne pas ronde dans un couple.
Et je nomme même le chapitre « La pornographie comme un parasite conjugal ». C'est pas peu dire, mais c'est exactement ce que je pense et ce que je constate dans mon bureau. J'ai jamais entendu une de mes patientes être enchantée ou sauter de joie que son conjoint consomme la pornographie. Puis on s'entend pas juste une fois de temps en temps, quand ça devient incontrôlable, quand c'est aussi présent que l'alcool, la drogue, le jeu. C'est quand ça prend la place comme si c'était un tiers dans la relation et que ça crée un fossé, que ça crée un évitement et qu'un des deux s'isole et évite les problèmes, évite l'intimité et évite l'autre. C'est là que ça devient vraiment difficile. Et j'ai des patients des fois qui me disent « Sylvie, c'est comme si je suis seule sur mon île déserte. Je sais que je suis coincée dans mon refuge abrutissant. » Et ces mots-là sont très porteurs parce qu'on ne construit rien, là. Ils ne sont pas en train de finir un doctorat, là. C'est un refuge abrutissant, là.
Oui. En terminant, mon passage préféré est vers la fin. C'est celui où vous parlez des divers types d'attachements sécurisés, détachés, sécurisants. J'ai l'impression que si on savait davantage ces types-là d'attachements, on comprendrait mieux l'autre, soi-même, d'abord et avant tout. On comprendrait mieux le phénomène aussi des réseaux de rencontres. Sylvie Lavallée, j'encourage bien sûr les gens à consulter votre livre pour mieux comprendre ça. Ça peut nous amener beaucoup, beaucoup d'indices. Le temps est déjà écoulé, alors j'invite les gens à consulter votre site sylvielavallée.com et votre livre « Êtes-vous en santé sexuelle? » Je pense que ça va brasser la cage à pas mal de monde, ça, Sylvie.
Ben moi, j'ai des gens déjà qui me donnent des réactions de « Oh, je me suis reconnue dans à peu près toutes les pages. J'aurais dû lire ça il y a quelques années pour m'aider à prendre une décision, puis peut-être me dédouaner de quitter une relation qui est peut-être devenue monotone ou toxique. »
Oui, et se choisir, vous y revenez beaucoup. Merci, Sylvie Lavallée. Un plaisir. Un
grand plaisir, merci.
Au revoir. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. J'espère que vous allez toujours bien et que même si on ne parle plus de sexe en deuxième partie, vous serez toujours à l'écoute. Je vous rappelle ce qui s'en vient en deuxième partie d'émission. On parlera avec François Théoret d'un sujet qui, comme je le disais, est important parce qu'il est dans un passage qui peut être sensible, gorgé d'émotions. Comment choisir une résidence pour personnes aînées, que ce soit pour nous, que ce soit pour un proche. Il sera là pour nous guider, orienter nos choix. Sur quels critères on se base? On lui parlera tout à l'heure à François Théoret, mais j'ai devant moi pour le moment Antonella Moroun. Elle est co-directrice du comité yoga et handicap de la Fédération francophone de yoga, professeure de yoga également. Et on parle avec Antonella de yoga adapté pour les personnes qui vivent en situation de handicap. Bonjour Antonella.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de m'avoir invitée.
Yoga adapté.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie d'entrée de jeu?
Bon, les yoga adaptés, c'est qu'on prend des postures de base, des postures classiques, et on l'adapte au corps de la personne aux besoins spécifiques.
Votre clientèle, elle ressemble à quoi, Antonella?
Écoute, ça peut être des personnes qui ont la sclérose en plaques, la paralysie cérébrale, ataxie. Ça peut aller aussi dans des problèmes de santé mentale. Donc, c'est très vaste.
Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à s'intéresser aux personnes qui vivent en situation de handicap à travers votre pratique de yoga?
Écoute, c'est un constat. J'ai réalisé que le monde du yoga ici au Québec, même au Canada et aux États-Unis, n'était pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Le yoga est universel et pour tous. J'ai voulu faire ça ma mission, le faire concret, et j'ai commencé à travailler avec ces personnes-là.
Excellent. D'accord. Qui peut pratiquer le yoga? Est-ce qu'il y a des contre-indications?
Écoute, tout le monde peut pratiquer le yoga. Le yoga est pour tous. Que la personne soit en fauteuil roulant, qu'elle puisse bouger, qu'elle soit au lit et qu'elle puisse seulement bouger les yeux, tout le monde peut le faire. Les contre-indications vont être, ça va être aux profs d'adapter certaines postures, mais c'est ouvert à tous, pour tous.
Au sein de la fédération, est-ce qu'il y a plusieurs enseignants de yoga qui ont épousé votre cause?
Oui, effectivement, on a un comité yoga handicap. Et si vous allez au site web de la Fédération francophone de yoga, vous allez trouver les professeurs qui se spécialisent aussi dans ces domaines avec leur numéro de téléphone et la région.
Mm-hmm. Quels sont les bienfaits pour la personne qui vit en situation de handicap? Vous avez pu, à travers le temps, en observer, j'imagine, Antonella.
Oui. Donc, d'abord, il faut spécifier que les gens à mobilité réduite sont des personnes comme vous et moi qui ont les mêmes besoins de base. Par exemple, être en paix, s'aimer. Bien dormir, gérer l'anxiété, le stress, l'estime de soi. Donc déjà, le yoga vient gérer et travailler ça à travers les postures, les exercices de respiration, de visualisation et la relaxation. Ensuite, si on va dans le plus spécifique, ça vient travailler la posture. Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent passer toute la journée dans une même posture, que ce soit en fauteuil roulant ou au lit. Donc, le yoga vient de se faire travailler les postures, défaire les tensions, diminuer les douleurs physiques, aussi émotionnelles. Ça fait travailler l'endurance, la force, la flexibilité, la concentration, ça augmente l'énergie, la bonne humeur.
Faut-il que vos enseignants soient formés à interagir avec cette clientèle qui a des besoins assez particuliers?
Effectivement. Ce n'est pas n'importe qui a pris une formation en 200 heures ou 300 heures qui peut travailler avec cette clientèle. Puisque oui, il faut savoir adapter les postures, savoir quels exercices sont les plus recommandés pour eux et ensuite savoir adapter. Donc, il faut aussi comprendre la maladie, les symptômes et qu'est-ce qu'elles ont de besoin. Donc, il y a au sein de la Fédération des enseignants qui forment, dont moi, en yoga thérapeutique et adapté.
La Fédération a été créée quand, Antonella?
Il y a 30 ans.
Oh, quand même! Donc, vous n'étiez pas là il y a 30 ans.
Non,
Vous avez relevé le défi de continuer la mission?
Oui. Oui, effectivement. Moi, j'ai travaillé avec la Fédération depuis 3 ans déjà.
OK. Et vos enseignants, vos cours sont offerts à travers le Québec. Où exactement, à peu près?
Écoute, tu peux aller vraiment à la ville de Québec. Tu peux aller aussi... je ne connais pas toutes les régions, mais c'est aussi à l'extérieur de Montréal que tu peux
trouver. Et tous vos enseignants, partout dans la province, sont formés à œuvrer auprès d'une clientèle ayant des besoins spécifiques.
Oui, effectivement. Et si vous allez sur le site web de la Fédération, vous allez trouver exactement les maladies que ces professeurs sont aptes à travailler.
D'accord. Est-ce que la personne qui vit en situation de handicap nécessite une assistance particulière? Est-ce que c'est du 1-1? Vous le faites plutôt en groupe?
Les deux sont possibles. Il y a des cours qui s'offrent en groupe. La personne peut arriver par elle-même, que ce soit en fauteuil roulant, avec un déambulateur, etc. Et il y a d'autres personnes qui arrivent avec un assistant. Ensuite, la personne peut aussi le faire de façon autonome chez elle. Elle peut choisir les exercices à la base qu'elle peut faire. Et il faut comprendre aussi que le yoga n'est pas juste des postures, mais aussi les exercices de respiration que tout le monde peut faire, de visualisation, de relaxation. Il y a même le yoga du son qui peut se faire. Donc, c'est accessible.
Le yoga continue d'accompagner la personne, même une fois rendue à la maison ou dans ses différents soins.
C'est les buts. Oui. Le but du yoga est vraiment d'aider à la personne à vivre dans ce tourbillon de la vie, à passer à travers les moments les plus difficiles et apprécier aussi les bons moments.
Oui. La personne se rend au cours, ce n'est pas l'enseignant qui se déplace.
Ça peut être les deux. La personne peut aller au cours, que ce soit avec les transports adaptés, etc.
Ou là, c'est le groupe davantage.
Exactement. Ou le professeur va chez la personne.
Oui. Une personne qui vit avec la sclérose en plaques n'a pas nécessairement les mêmes besoins qu'un blessé médulaire, par exemple. Non. Il faut connaître la condition de la personne et adapter la pratique du yoga aussi.
Oui, exactement. Donc, le yoga va s'adapter selon la maladie de la personne, la capacité aussi corporelle, physique.
D'accord.
Effectivement.
Maintenant, pour en savoir davantage, on va sur votre site, Antonella.
Oui. Allez au site de la Fédération francophone de yoga. Vous allez trouver les professeurs qui sont aptes à vous accompagner. Voilà.
Ouais. Oui. Vous avez des partenaires aussi?
Oui, en fait, il y a des cours de yoga adaptés qui s'offrent à Vie Autonome Montréal.
Mm-hmm.
SIVA, S-I-V-A. Et aussi l'Association des sclérose en plaques qui en offre. Et Parkinson Québec, si je ne me trompe pas.
Est-ce que ces organismes ou ces organisations sont là, présentes, pour vous donner de l'information aussi, que ce soit sur les maladies ou la réalité des personnes
oui.
qui...
Oui, effectivement. En tout temps, ce sont des organismes qui sont disponibles à répondre à toutes nos questions. En fait, il faut... Parce que quand un professeur de yoga adapté va donner un cours en groupe, elle se doit de savoir la santé des gens.
Oui. Avez-vous l'impression que la Fédération et vous aussi, à travers l'enseignement du yoga, prouvez que le yoga, c'est vraiment pour tous et peut amener un bienfait, à, que ce soit un enfant, que ce soit une personne en situation de handicap, que ce soit une personne âgée, ça élargit un petit peu les horizons?
Effectivement. De ce fait, la Fédération est le seul organisme à avoir un comité en yoga handicap.
Oui.
Même si vous allez dans les sites web des autres organismes ou alliances, ils disent oui, le yoga doit être accessible, le yoga est universel, mais ils ne font rien de concret. Tandis qu'à la Fédération de yoga, oui, il y a des cours pour enfants, pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes qui ont des problèmes digestifs, etc.
Oui. On laisse votre site fédérationyoga.qc.ca. Ça fait 30 ans que ça existe. Comment ça? On ne connaissait pas ça.
Écoute, il va falloir travailler sur le marketing, peut-être.
Oui, tout à fait. Vous allez devoir, Antonella, multiplier les entrevues. Antonella Moroun, vous êtes professeure de yoga, co-directrice du comité yoga et handicap, et vous œuvrez au sein de cette Fédération. Oui. Merci beaucoup de votre
passage.
Merci
à vous, merci.
François Théoret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de développement des affaires au groupe Projacques. Et on est là ensemble, François, pour parler d'une étape qui est importante, qui peut être bouleversante aussi au sein des familles, c'est-à-dire le passage de sa propre résidence, sa maison, vers une résidence pour personnes aînées. Étape importante pour la personne elle-même, parfois son conjoint, conjointe, les enfants et la famille, l'entourage proche. Et il y a des façons de bien orienter les personnes pour faire des choix éclairés. Quels sont les critères à observer en premier lieu?
Je dirais... C'est une étape stressante également et déstabilisante pour l'aîné et sa famille. Alors, le choix de changer de domicile provient de différentes raisons. Alors, que ça peut être une perte d'autonomie, un deuil du conjoint, on ne veut plus rester seul. Ça peut être volontaire, comme ça peut être aussi involontaire en raison de son état de santé. Alors, tout ça fait en sorte que c'est déstabilisant pour l'individu et sa famille. Et il existe différentes aides pour ces gens-là pour bien identifier leurs besoins et trouver la résidence pour aînés, qui sont des conseillers en hébergement pour aînés.
Oui.
Alors, c'est un métier, je dirais, qui est encore méconnu aujourd'hui, même si ça fait près d'une vingtaine d'années que ça existe. Ce sont des gens, des hommes, des femmes, qui ont une expérience dans le réseau de la santé, qui sont en mesure d'évaluer les besoins de l'individu. Et je fais toujours l'analogie avec le consultant en entreprise. Plus jeune, j'ai eu la chance d'être consultant. J'étais le petit gars de 30 ans avec un directeur général de 50 ans et je lui disais, le bloc opératoire, on va l'organiser de telle, telle façon. J'étais pas nécessairement plus brillant que lui, mais j'avais le recul que le DG n'a pas. Et lorsque nos conseillères se présentent avec un aîné, on voit toute la forêt, on voit pas seulement l'arbre. Donc, on a le recul et on est capable de challenger et d'identifier les besoins.
Ouais. Et peut-être d'aller au-delà aussi de cette anxiété-là, du malaise aussi, parce que ça bouleverse des valeurs, ça change un plan de vie, parfois aussi, comme vous le dites, François Théoret, parfois c'est voulu, c'est souhaité, parfois ça ne l'est pas, parfois c'était même pas dans le plan de match d'arriver à ce choix-là. Ça prend aussi une certaine aisance à comprendre ce que peuvent vivre les gens.
Exact. Et bien saisir le besoin et à partir de là, d'identifier les résidences. Il existe près de 2000 résidences au Québec en fonction des besoins X, Y, Z. Quelles sont les résidences qui correspondent à nos besoins?
Ouais.
Et c'est là la valeur ajoutée d'un conseiller en hébergement. Et c'est un service qui est totalement gratuit. Alors, pourquoi s'en passer puis faire les démarches soi-même, oublier certains besoins qui sont essentiels et faire le mauvais choix d'une résidence et recommencer 6 à 9 mois plus tard.
Quand ça entraîne des coûts aussi de changer les déménagements et tout ça. 2000 résidences au Québec, il y a différents types de résidences, François.
Exactement. Il y a des résidences autonomes, semi-autonomes, non-autonomes, des ressources intermédiaires publiques ou privées et des CHSLD publiques ou privées aussi. Avant d'arriver au choix d'une de ces ressources-là, il y a différents critères qu'on doit prendre en considération pour faire le bon choix. Que ce soit le secteur, son état de santé, le budget, ce qu'on recherche comme type de résidence, une grande résidence, une petite résidence, à proximité des enfants, des centres commerciaux. Alors, plusieurs éléments là à prendre en considération pour faire le bon choix. Et parmi les résidences, mais comme je le disais, il y a des résidences 100% autonomes où ce sont des résidences avec une infirmière qui est là au besoin, salle à manger, mais pratiquement pas de service d'aide à l'hygiène, d'aide au bain, etc. Donc, il y a d'autres résidences qui offrent plus de soins avec des étages de soins pour une clientèle en perte d'autonomie physique ou en perte d'autonomie cognitive.
Mm-hmm.
Et si on va un peu plus loin, il existe des CHSLD qui peuvent être sur une base publique, comme on le connaît actuellement, ou totalement privée. Et la nuance entre les deux, souvent on dit en public, c'est gratuit. Mais c'est pas vrai parce que c'est un peu plus de 1 800 $ par mois que ça coûte à l'individu pour aller en CHSLD public. Et en CHSLD privé, bien évidemment, ça peut être un peu plus élevé. D'où vient le différentiel? Mais c'est nos impôts à nous tous qui payons la portion du public.
Ouais. Je vous écoute, François Théoret. Il faut, quand on arrive à cette étape-là, être très honnête avec soi-même aussi. Je m'intéresse à notre état de santé. Ça détermine probablement le choix de bien des gens. Est-ce que les services, les centres hospitaliers sont proches? Vous parliez tantôt de soins d'hygiène, soins de santé. Est-ce que la personne qui se présente chez vous, qui a besoin de conseils et d'orientation, doit avoir un bilan de santé de son médecin?
C'est pas nécessaire d'avoir un bilan de santé global du médecin. La conseillère est apte à identifier ses besoins. Mm-hmm. Évidemment, souvent, il y a une travailleuse sociale qui est près du dossier et qui est en mesure de collaborer à la demande de la famille avec nous pour nous transmettre des informations additionnelles. Mais la conseillère est en mesure là, vraiment d'évaluer quels sont les besoins de la personne. Parce que souvent, la conseillère, c'est une travailleuse sociale, c'est une technicienne en réadaptation, c'est une infirmière. Donc, ce sont des gens là qui sont vraiment aptes à identifier les bons besoins. Et à partir de là, trouver la résidence qui correspond sur le territoire qui est recherché.
OK. Quelle est l'approche particulière, François Théoret, quand ce n'est pas un choix? On en parlait tout à l'heure. Quand ce n'était pas prévu de déménager et d'aller vers une résidence pour personnes aînées?
Et là, il y a toute la notion de, tant au niveau du parent que de l'enfant, de faire comprendre la situation, de faire accepter qu'on est rendu à un niveau où on n'a pas le choix. L'état de santé de monsieur et madame ne convient plus à rester à domicile. Les services de maintien à domicile ne sont plus suffisants. Et il faut passer à une autre étape. Alors, et ça, souvent, au niveau de l'enfant, on doit le faire beaucoup avec les problèmes de perte cognitive. L'enfant n'est pas en mesure de comprendre jusqu'où son parent est rendu. Et on a un petit outil qui permet de faire une analogie entre un âge d'enfant et l'évolution de la maladie d'Alzheimer et qui nous permet de dire, est-ce que vous laisseriez un enfant de 5 ans seul chez lui à domicile, etc. Alors, c'est une question là de perception et de faire comprendre on est où, on s'en va où et de dire à partir de là, il existe différents types d'hébergement qui pourraient correspondre à vos besoins.
Oui. J'ai été heureuse de lire dans le document « Plus belle la vie » parce qu'on parle de choix, les critères, qu'est-ce qui nous oriente, et ça peut être parfois des détails comme des choses très importantes auxquelles on n'aurait pas pensé d'entrée de jeu, l'animal de compagnie. Et il y a plusieurs résidences au Québec pour personnes retraitées, pour personnes aînées qui permettent l'animal de compagnie. C'est quand même à souligner.
Exactement. En général, ils refusent, mais tant qu'on est en mesure de s'occuper de l'animal de compagnie, c'est accepté. Évidemment, le chien en bas du livre, ça passe beaucoup mieux qu'un gros chien de 25 livres.
Oui.
Alors, ça, c'est à prendre en considération aussi. Lorsqu'on fait l'évaluation, encore une fois, on visite le client à son domicile. Ça nous permet de voir dans quel milieu l'individu habite. Ça nous permet de valider également son niveau d'autonomie. Mmh. Question de lui trouver par la suite le bon milieu de vie et d'aller chercher tous ces petits détails-là. Un autre exemple, c'est je veux partir des Laurentides, je m'en vais dans Montérégie parce que mon enfant habite là. La vraie question qu'un individu doit se poser, c'est le fait de se détacher de son milieu, de son environnement, de ses amis. Est-ce que ça va faire en sorte que si je m'en vais à Montérégie, mes enfants vont venir me voir plus souvent?
Mm-hmm. Oui.
Alors, ça, il faut poser cette question-là. Quand on voit des clients qui partent d'un territoire vers l'opposé, vraiment, c'est des challenges et de leur poser la question pourquoi et croyez-vous que votre enfant va venir vous voir plus souvent?
Oui.
Il faut les faire cheminer dans leur réflexion.
Oui, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, d'être honnête envers soi-même pour faire le bon choix. Vous parlez-vous de challenger, c'est d'oser poser les bonnes questions, parfois peut-être des questions qui sont plus délicates, mais qui amènent une réflexion qui est juste. Est-ce que ce sont des rendez-vous uniques avec les conseillers ou il peut y avoir une série de rendez-vous?
Il peut avoir plusieurs rendez-vous. Dans le fond, le processus d'évaluation est le suivant. Il y a un premier appel téléphonique qui dure environ 15-20 minutes, qui est la qualification du dossier, c'est-à-dire quel secteur, quel niveau d'autonomie, quel budget. À partir de là, on regarde s'il y a une adéquation entre les besoins et le budget et on va aller évaluer à domicile l'individu pour identifier ses vrais besoins. Au téléphone, on dit je suis autonome, on sonne à la porte, et on nous répond en marchette et on est chambranlant. Alors, ça nous permet vraiment d'évaluer ça. suite à ça, on va prendre les rendez-vous avec les résidences. Et on ne fera pas 12 résidences, on va faire entre 2 et 4 résidences.
Mm-hmm.
On prend les rendez-vous, on accompagne l'individu lors des visites. On l'aide à faire le bon choix et on va également l'assister à la signature du bail afin de s'assurer que tout soit conforme pour que l'individu puisse avoir le maximum de crédit d'impôt de maintien à domicile.
Et tout ça est gratuit?
Tout ça gratuitement, sans aucune obligation de la part de l'individu. Donc, pourquoi s'en passer?
Oui. On va sur plusbelle-lavie.com pour en savoir davantage et vous joindre, François Théoret.
Exact. plusbelle-lavie.com ou le 1-855-966-0001.
Oui. Un service qui, on doit le souligner, est de plus en plus essentiel avec le vieillissement de la population et bien sûr les soucis que ça peut amener aux proches lorsqu'il y a une perte soit de mobilité ou encore des pertes cognitives. François Théoret, vous êtes vice-président du développement des affaires au groupe Projacques. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Bonne fin de journée.
Au revoir. Dernier segment de cette émission, c'est mon moment coup de cœur où j'ai envie de vous souligner une bonne initiative, quelque chose qui fait ma joie ou qui suscite mon admiration. Une nouvelle qui est arrivée tout à l'heure dans ma boîte courriel qui vient du Y des femmes de Montréal. En fait, une initiative que je trouve tout simplement géniale. Le Y des femmes de Montréal lance une liste de livres jeunesse pour aider les 9 à 16 ans, autant, bon, des ados, autant garçons que filles, à réfléchir sur des thèmes qui les touchent de près. C'est à l'occasion de la Journée internationale des femmes 2017. On parle du 8 mars, bien sûr, qui s'en vient dans quelques jours, une liste de livres intitulée « 10 héroïnes qui osent et qui font réfléchir ». Donc, on a accès à une suggestion de lecture sur des thèmes qui touchent de très, très près les 9 à 16 ans. Une sélection de littérature jeunesse qui a été faite par des pros, des gens qui connaissent vraiment bien ce milieu-là. Des histoires qui traitent de problématiques actuelles vécues par adolescents, adolescentes. Je le répète, c'est important parce qu'on pourrait dire, bon, Journée internationale de la femme, c'est juste pour les jeunes filles. Non, on s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. De quoi on parle dans ces 10 livres-là sélectionnés? Et aussi, je le souligne, écrits par des auteurs, encore là, auteureux et auteurs, donc garçons québécois. Donc, on a vraiment des œuvres faites, créées, pensées ici. Donc, je reviens à ces thèmes-là qui ont inspiré la liste de suggestions. Cyberintimidation, images corporelles, on parle de consentement sexuel. C'est donc dur à expliquer, à saisir le consentement sexuel. Si on peut avoir une œuvre littéraire illustrée, adaptée pour un jeune, pour parler de ce sujet-là sensible, pourquoi pas? Hypersexualisation, stéréotypes de genre, exploitation sexuelle. Donc, voilà ce que l'on aborde dans cette suggestion de livre. Pourquoi? Pour susciter la pensée critique des jeunes, pour aussi amener une réflexion positive, d'enjeux qu'ils rencontrent tous les jours. Et c'est aussi un outil qui est vraiment utile pour des parents qui parfois ne savent pas comment aborder un sujet un peu plus sensible, je le disais, un petit peu plus délicat. On sait que notre jeune peut être amené à vivre ça à l'école, dans son cercle d'amis. Peut-être qu'il le vit déjà, on en a entendu parler par lui, par les intervenants, les enseignants à l'école. On veut en parler avec lui, on n'a pas les mots, on ne sait pas comment aborder les choses. Un livre est un contexte, un prétexte, je dirais, parfait. Donc, outil qui peut servir vraiment à tous les intervenants, tous les adultes signifiants autour du jeune. Donc, vous allez sur le site ydesfemmes.org. Vous pouvez télécharger cette liste de livres-là. C'est disponible en ligne. Je répète le titre, 10 héroïnes qui osent et qui font réfléchir. Et tous les titres de ces œuvres littéraires jeunesse sont écrits. C'est des livres qui sont écrits par des auteurs d'ici, des illustrateurs d'ici. Et aussi, parenthèse, si vous allez sur le site web de ydesfemmes.org, je le répète, vous allez avoir accès à une panoplie d'outils, que ce soit des capsules, que ce soit des livres, que ce soit des liens vers des sites qui vous aideront en tant que parent ou intervenant auprès des jeunes à aborder des thématiques plus sensibles, plus délicates, mais toujours extrêmement liées à leur réalité et à leur quotidien. Pourquoi s'en priver? C'est là, c'est gratuit et c'est outillant, c'est aidant. Superbe initiative que je souligne et que je célèbre. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Cette émission ne se fait pas seule. Avec moi, Jean-Sébastien Laliberté, à sa console, c'est Christiane Campagna. Aux médias sociaux, Martin Forgue à la recherche. Je remercie tous mes invités du jour. François Théoret, Antonella Moroun, Sylvie Lavallée et Valérie Raymond. Je vous invite à consulter notre site web vuesetvoix.com à entrer en contact avec nous. De plus en plus, j'ai de vos nouvelles. Vous m'écrivez, vous laissez des messages sur ma boîte vocale. J'apprécie. 1-800-361-0635, poste 220. Encore, par courriel, vous pouvez me joindre. Là, je vous laisse mon courriel personnel, mpaquette@vuesetvoix.com. Et on est présent sur Twitter et sur Facebook. Manifestez-vous. On est toujours content d'entendre parler de vous. Je vous salue. Portez-vous bien. C'est Marianne Paquette. Je vous embrasse. Bye-bye.